Chapitre 23. Annabelle était à l'aéroport, assise à quatre fauteuils de Didi, les bras autour de ses genoux repliés, elle observait l'activité sur le tarmac par la baie vitrée. Elle leva les yeux un instant lorsque Bobby arriva, puis reprit son observation consciencieuse de quiconque n'était pas un policier chargé de son affaire. Il reçut le message et ne la dérangea pas. Didi l'accueillit d'un salut de la main. Ses boucles blondes étaient humides, ses vêtements propres. Il considéra cela comme un bon signe, tandis qu'elle parlait avec animation sur son téléphone portable et lâchait une telle bordée d'injures qu'une mère voyageant avec un jeune enfant se leva pour s'éloigner ostensiblement. Bobby se dirigea vers le Starbucks. Son estomac se rebellait à l'idée de prendre encore du café. Il acheta trois bouteilles d'eau et des yaourts, puis rentra à la ruche. Didi, toujours pendue au téléphone, plissa le nez en voyant le yaourt. Elle espérait probablement un chausson aux amandes, mais il lui fit signe de laisser la collation sur son siège. Puis il s'approcha d'Annabelle qui, si c'était possible, se recroquevilla encore davantage sur son siège. Il lui tendit l'anka. Comme elle l'acceptait à contre-cœur, il prit le siège à côté d'elle et tira du sac deux cuillères en plastique. « Comment vous vous sentez ?» Elle fit la grimace. « Encore besoin d'aspirine ?»«
Besoin d'une nouvelle tête. »
« Ouais, je connais. »«
Oh, ça va, » dit-elle, mais elle se pencha un peu vers lui pour décoller la pellicule en aluminium du yaourt.
Le pendentif qu'elle portait en permanence se mit à se balancer. Il regarda l'ampoule jusqu'à ce qu'Annabelle lève finalement les yeux et rougisse en remarquant la direction de son regard. Ses doigts se refermèrent avec gêne sur l'ampoule en verre et la rentrèrent dans sa chemise.
« C'est qui ?»
demanda-t-il, s'étant finalement avisé que le contenu ressemblait à des cendres.
« Ma mère et mon père, »
marmonna-t-elle, de toute évidence peu désireuse d'en parler. Il creusa donc le sujet, évidemment.
« Qu'est-ce que vous avez fait du reste de leurs cendres ?»
Je les ai dispersés. Inutile de les enterrer sous de faux noms. Trop irrespectueux pour les autres morts, je trouve.
Comment s'appelait votre mère quand elle est morte?
Elle le regarda décontenancé.
Pourquoi?
Parce que je parie que de tous les noms qu'elle a portés pendant toutes ces années, il y en a deux dont vous vous souvenez. Celui d'Arlington et celui du jour où elle est morte.
Lentement, Annabelle acquiesça.
Ma mère a vécu sous le nom de Leslie Ann Granger, mais elle est morte sous celui de Stella L. Carter. J'ai toujours ces noms en mémoire. Toujours.
Et votre père?
Russell Walt Granger. Michael W. Nelson.
J'aime bien ce pendentif, dit-il.
C'est morbide.
C'est sentimental.
Elle soupira.
Bon flic aujourd'hui, capitaine?
J'en déduis que Didi va vraiment me pourrir la vie pendant le vol. Il eut un grand sourire.
« Vous savez, on forme une équipe, Annabelle. On essaie tous de découvrir la vérité. Je pensais que vous seriez la première à vouloir la connaître. »«
Ne me traitez pas comme une enfant, Bobby. Pour vous, il s'agit d'un exercice de logique. Pour moi, il s'agit de ma vie. »«
De quoi avez-vous tellement peur, Annabelle ?»«
De tout, » répondit-elle tout net.
Elle prit son yaourt, se détourna et se remit à observer les avions.
Le dernier pseudo connu du père était Michael W. Nelson, annonça Bobby 3 minutes plus tard en retournant auprès de Didi.
Didi observa derrière lui Annabelle, qui regardait ailleurs, sourde à leur conversation.
Excellent travail, enquêteur.
J'ai un don, dit Bobby en feignant de ne pas se sentir comme le dernier des salauds.
Leur avion prit son altitude de croisière. De l'autre côté du couloir, Annabelle inclina son siège, s'endormit. Assise à côté de Bobby, Didi se tourna vers lui les yeux brillants.
« On a retrouvé Christopher et Ola, » dit-elle avec excitation. « Ou plutôt, on a confirmé sa disparition. Écoute ça, Bridgewater l'a relâché en 78. »«
Hein ?»«
Ouais, un petit génie a omis de déposer plainte contre Ola pour avoir mené une mutinerie de patients pendant qu'il était à l'hôpital psychiatrique de Boston. » De sorte que même si son dossier médical contenait des notes sur les supposés incidents, et même si le commissariat du quartier l'avait considéré comme un suspect possible pour le meurtre d'une jeune femme, il n'avait pas à proprement parler de casier judiciaire. Et quand Bridgewater est devenu surpeuplé, devine à qui on a montré la porte?
Oh merde.
D'après son dossier, c'était un vrai enfant de cœur à Bridgewater, et ils n'ont donc jamais pensé à se renseigner auprès de son précédent établissement. Pour tout dire, Bridgewater est assez fier d'Eola. Il considère son cas comme une vraie réussite.
Bobby éclata de rire parce que c'était ça ou tuer quelqu'un. Document mal classé, administration incompétente.
Les gens tenaient la police pour responsable de l'augmentation de la criminalité. Ils ne se doutaient guère qu'ils auraient dû s'en prendre à tous les gratte-papiers de cette terre.
D'accord, se reprit Bobby. Donc, en 78, Eola rejoint le monde des vivants. Et ensuite,
il se volatilise.
Sérieusement ?
Il ne s'est jamais présenté au centre de réadaptation, n'a jamais demandé ses allocations, ne s'est jamais rendu à sa visite de suivi. Un jour il existe, le lendemain il a disparu.
Il s'est défilé ou bien il a été avalé par le trou noir des foyers pour sans-abri ?
Tu en sais autant que moi. Mon hypothèse, vu son niveau d'intelligence supposé, c'est qu'il s'est intégré à la société sous une fausse identité. Réfléchis à ça. Il avait vécu une existence privilégiée. Quel gosse de riche accepterait de zoner dans les rues ? D'ailleurs, même dans le milieu des sans-abri, les gens finissent par être connus. Ils fréquentent les mêmes soupes populaires, dorment dans les mêmes foyers, se tiennent au même coin de rue jour après jour. Tôt ou tard, quelqu'un comme Charlie Marvin, qui travaille à la fois auprès des malades mentaux et des sans-abri, l'aurait forcément reconnu. Plus personne ne disparaît réellement, même dans les quartiers pauvres de Boston.
Vrai et faux. Aux dernières nouvelles, on comptait officiellement 6 000 sans-abri à Boston. Étant donné que même un grand foyer comme Pine Street Inn n'en accueille qu'environ 700, il y a beaucoup de gens dont on ne voit jamais le visage.
Ouais, mais là, on parle de quelqu'un qui a réussi à passer inaperçu pendant près de 30 ans. Ça fait long pour rester invisible. Ce qui nous amène aussi à la possibilité qu'Eola soit tout simplement mort.
Didi fit la moue, retourna la question dans sa tête.
Ce serait trop beau. Les vrais tarés ne meurent jamais. Tu l'as remarqué aussi ou c'est juste moi ?
J'ai remarqué, dit Bobby.
Cincus a réussi à localiser la famille d'Eola ? Il est allé les voir hier après-midi dans leur résidence de Back Bay, ajouta-t-elle sur un ton entendu. Ils n'ont même pas voulu le laisser entrer tellement ils étaient contents d'avoir enfin des nouvelles du fils depuis longtemps disparu.
Tu as remarqué aussi que les familles les plus riches sont toujours les plus foireuses ou c'est juste moi ?
J'ai remarqué. Tu vois, nos salaires de misère ont un avantage. On ne sera jamais assez riche pour que nos familles soient aussi foireuses.
Exactement.
Et, oh merveille, les Eola ont déjà rameuté leur avocat. Ils ne répondront à aucune question sur leur fils, sans assignation ou en l'absence de leur avocat. Cincus s'occupe des formalités en ce moment même. Je te parie ce que tu veux qu'il va arriver à faire venir tout ce beau monde, avocat surpayé compris, dans nos bureaux cet après-midi. Quelques tasses de café brûlé et ils devraient commencer à parler, ne serait-ce que pour préserver leur papille gustative.
Elle s'interrompit.
Je pense qu'ils ne savent pas où est Eola. D'après Cincus, il était évident qu'il n'éprouvait que du dégoût pour leur fils. Mais j'aimerais en savoir beaucoup plus sur l'épisode qui l'a conduit à l'hôpital psychiatrique. Ce serait pas mal de définir un profil un peu plus solide de Monsieur Eola pour voir si son mode opératoire de jeunesse colle avec d'autres éléments que nous connaissons.
Didi hocha la tête pour elle-même, cherchant déjà dans sa pile de dossiers, les joues rouges, bouillonnantes d'énergie. Rien de tel que 2 suspects plausibles pour l'exciter comme une puce.
« Bon, » dit-elle avec entrain. « Comment ça s'est passé avec Catherine ?»
Bobby résuma les grandes lignes. Catherine affirme avoir parlé 2 fois avec Russell Granger. Il s'est présenté comme un agent spécial du FBI, sans donner de nom, et ses questions étaient raccord avec ce que les autres policiers lui demandaient. Détail le plus intéressant, il avait apporté un portrait au crayon de son agresseur présumé.
« Vraiment ?» dit Didi éberlué.
D'après Catherine, le croquis ne correspondait pas à Richard Umbrio. Le dessin de Granger était celui d'un homme beaucoup plus petit. Lorsqu'elle a essayé d'expliquer ça à Granger, il l'a contredite. Peut-être qu'elle n'avait pas assez bien vu son agresseur, ou peut-être que si l'homme du dessin portait un déguisement ou avait pris du poids, il correspondrait à la description qu'en faisait Catherine, ce genre de choses.
Hein ?
Didi était toujours éberluée. Bobby soupira, essaya de croiser les bras derrière sa tête, mais se cogna tout de suite le coude dans le renfoncement du hublot. Il se rappela pourquoi il détestait être coincé dans un minuscule siège d'avion, et encore il n'était pas si grand que ça.
Catherine a laissé entendre que Granger s'intéressait essentiellement à son agresseur, pensa Bobby à voix haute. Il voulait une description physique, les intonations, tous les signes particuliers. Ensuite il lui a montré le croquis, mais tout ça était peut-être une couverture. Pour endormir sa méfiance en prétendant avoir un suspect,
alors qu'en réalité il cherchait à obtenir d'elle tous les petits détails de son enlèvement et des agissements d'Umbrio. Si c'était sa stratégie, ça a marché, parce que Catherine n'y a vu que du feu.
Il détourne son attention vers un aspect de l'interrogatoire, le croquis, alors qu'en fait 90% de ses questions portent sur l'agression, résuma Didi. Un interrogatoire façon passe-passe.
Bobby sourit. Il faut lui accorder ça, sa stratégie ressemble à nos méthodes.
Super, tout juste ce qu'il nous fallait, un salopard de psychopathe intelligent.
Didi se frotta les tempes, soupira, se frotta à nouveau les tempes.
Catherine n'aurait pas inventé tout ça par hasard, parce qu'elle donne beaucoup de détails sur cet agent du FBI croisé deux fois il y a 27 ans.
Exact, concéda Bobby. Mais je crois que monsieur l'agent spécial lui a fait forte impression, le fait qu'il ait apporté le portrait d'un suspect et qu'ensuite il ait soutenu catégoriquement que l'homme du dessin était forcément son ravisseur, alors même qu'elle affirmait le contraire. Sa réaction était inattendue, donc mémorable. Et puis pourquoi est-ce qu'elle nous ferait marcher?
Ça t'a fait revenir chez elle, non?
Et puis ça fait d'elle une partie prenante de l'enquête en cours.
Elle a une raison de t'appeler et une excuse pour me torturer. Ça lui ressemble.
Bobby haussa les épaules. Tout ça a été fort possible, sauf que... je crois qu'elle apprécie vraiment Annabelle.
Oh, je t'en prie, Catherine n'a pas d'amis. Des amants peut-être, mais pas d'amis.
Je suis bien son amie, répliqua-t-il.
L'air sceptique de Didi l'informa de ce qu'elle en pensait. Le désaccord était ancien et insoluble. Il revint au problème qui les occupait.
Je crois qu'elle disait la vérité. Apprendre que celui qu'elle croyait être un agent du FBI arrogant était en fait le père d'Annabelle l'a désarçonné. Hier après-midi, elle était persuadée qu'il n'y avait aucun lien entre son affaire et celle d'Annabelle. Ce matin, en revanche, tous deux se turent, tournant et retournant le problème dans leur tête.
Bobby prit enfin la parole.
Il y a deux hypothèses. Soit Granger faisait marcher Catherine, il lui a juste tendu un piège pour apprendre des détails sur son enlèvement sans que personne ne se doute de rien. Soit Granger avait vraiment un suspect en tête. Il a montré un portrait de celui dont il avait des raisons de penser qu'il était son violeur.
Didi joua le jeu. Disons qu'il avait un suspect en tête. Pourquoi ne pas appeler la police et donner son nom?
Aucune idée.
Et puis on est en 1980, non? 2 ans avant que la fille des Granger ait officiellement commencé à recevoir des cadeaux. Alors pourquoi Granger était-il tellement obsédé par les agressions?
Un citoyen inquiet?
Persuadé que le meilleur moyen de servir la justice était de se faire passer pour le FBI? Je t'en prie, les honnêtes gens ne se déguisent pas en policiers.
Les honnêtes gens figurent généralement dans le fichier des permis de conduire et ont un numéro de sécurité sociale, renchérit Bobby.
Ce qui veut dire
que Russell Granger n'était pas très honnête.
Et qu'il a très bien pu faire des recherches sur les agressions afin de s'en inspirer pour ses propres crimes. Cincus est au basque des Ola, conclut Didi. Je veux que tu te charges de Granger. Déniche les voisins, retrouve cet ancien directeur du département de mathématiques au MIT. Voyons quel genre de vie menait le père d'Annabelle à Arlington, et puis penche-toi sérieusement sur leur vie en cavale. Tu as les villes? Tu as les dates? Ce que je veux savoir, c'est si la famille d'Annabelle fuyait à cause de quelque chose que Russell Granger redoutait ou à cause de ce qu'il avait fait. On se comprend?
Bobby acquiesça. On devrait interroger Walpole, dit-il. Conviction de Catherine mise à part, il faut qu'on vérifie le dossier carcéral d'Umbrio pour voir s'il y a des traces d'une correspondance, le registre des visiteurs, ce genre de choses, histoire d'être sûr qu'il est resté le taré asocial qu'elle a si bien connu.
Entendu.
Je suis pas mal occupée avec le dossier Granger.
Ouais, je vais mettre quelqu'un d'autre sur le coup.
Dakodak, dit Bobby.
Dakodak, répondit Didi.
Satisfaite, elle referma ses dossiers, se renfonça douillettement dans son siège.
« Bonne nuit, Bobby, »
murmura-t-elle. 30 secondes plus tard, elle était KO.
Bobby regarda de l'autre côté de l'allée à l'endroit où Annabelle dormait toujours, le siège incliné, le visage dissimulé derrière ses longs cheveux bruns. Puis il regarda à nouveau Didi, dont la tête dodelinait déjà vers son épaule.
« Compliqué, cette affaire, » songea-t-il, et il essaya de se reposer un peu.